Alors, si vous voulez, on va aller dans Exode 34, versets 29 à 35. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. On va voir que dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, on nous parle de cet événement-là et on fait un rapport avec le fait que les Juifs, tant qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas fait enlever le voile, alors il y a une image qui est reprise de ce texte-là dans le Nouveau Testament. Alors, je voudrais regarder, le texte est quand même pas trop compliqué à expliquer. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de mettre les pleins feux sur le médiateur. C'est le titre que j'ai donné au texte d'aujourd'hui, « Plein feu sur le médiateur ». Là, on parle du médiateur Moïse dans ce texte-là. Mais moi, j'ai voulu qu'on parle du médiateur, notre médiateur à nous, c'est Jésus-Christ. Alors, on va voir de quelle façon le texte d'aujourd'hui peut se accrocher avec le fait que Jésus-Christ est notre médiateur. Alors, on va regarder trois points. Le médiateur et la grâce de Dieu. Deuxième point, le médiateur et la gloire de Dieu. Et troisième point, le médiateur et le garant pour Dieu. Le médiateur, c'est un révélateur. Je ne sais pas que vous vous souvenez dans l'ancienne façon de faire des photos. Quelqu'un prenait des photos, il y avait des films, et là, il mettait ça dans un genre de bain, d'acide, et ça révélait. Ça révèle que ce que la lumière avait réfléchi sur un film, et quelqu'un pouvait faire des reproductions de ça. Quand je dis le médiateur, on parle de Christ, il est un révélateur. Il nous révèle quoi? La première chose, il nous révèle la grâce de Dieu. Rappelons-nous que la grâce est une faveur déméritée faite par Dieu. Je vous ai déjà parlé de cette notion-là. Il y a plusieurs qui disent que la grâce est une faveur non méritée ou imméritée. Moi, je vais plus loin un petit peu, je dis que c'est une faveur déméritée. Et je pense que c'est biblique aussi. Parce qu'on était des ennemis. Si je cogne à votre porte et j'ai 1 million à vous donner, puis que je vous connais pas, vous m'avez jamais rien fait, là, c'est une grâce imméritée que je vous donne. Mais si vous avez blessé mes enfants, vous avez voulu mettre le feu à ma maison, vous êtes mon ennemi, et que là, je vais quand même cogner à votre porte pour vous donner 1 million, ça, c'est une faveur déméritée, parce que non seulement tu la méritais pas, mais tu méritais le contraire, tu méritais d'avoir une punition. Alors, la grâce de Dieu, Jésus nous rappelle que la grâce du Père, c'est une faveur déméritée, parce que quand on l'a reçue, on était des ennemis de Dieu. Donc, c'est le médiateur Jésus-Christ qui nous révèle que Dieu nous a sauvés par sa grâce et que cette grâce-là, ce n'est pas une décision qu'on a prise, nous. C'est un don de Dieu. Donc, la foi, c'est un don qu'on reçoit personnellement, souverainement, de la part de Dieu le Père. Autre chose concernant le médiateur, c'est qu'il est un réalisateur. Il reflète la gloire de Dieu. J'avais déjà expliqué que la gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble de chacun de ses attributs. Et on sait qu'il y en a au moins pas loin d'une trentaine, certainement. Et que chacun de ces attributs-là est infini. Quand Christ est venu, il a manifesté, rendu visible, rendu perceptible par ceux qui l'ont vu faire, de certains attributs du Père. La grâce, la bonté, la puissance, et on pourrait allonger, prendre chacun des attributs de Dieu, la miséricorde. Quand Dieu, par exemple, quand Jésus est venu, puis qu'il guérissait des personnes qui n'étaient pas des élus, quel attribut de Dieu manifestait-il si ce n'est pas la miséricorde? Il avait pitié d'une personne qui n'était même pas un de ses élus, puis il le guérissait quand même. Et on pourrait allonger la liste. Dans le fond, quand Jésus est venu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a manifesté, rendu visible, rendu perceptible par tout le monde qui l'a entendu, des attributs divins, et il en a manifesté, il les a tous manifestés, très certainement. Alors, quand Christ était sur la terre, lui-même l'a dit, que son principal but, sa principale raison d'agir dans la vie lorsqu'il est venu sur la terre, c'était de glorifier son Père. Alors, rappelons que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de tous les attributs de Dieu. Christ nous a révélé toutes les facettes du caractère de Dieu. Et l'autre point, c'est le médiateur est un réconciliateur. Il devient le garant pour Dieu. Le médiateur Jésus-Christ est notre garant, notre assurance, notre garantie, notre caution. Qu'est-ce que c'est un garant? Supposition que je n'ai pas d'argent, je veux me partir en affaires, puis il y a quelqu'un ici dans l'Assemblée qui est riche à craquer. Puis je m'en vais le voir, puis je raconte mon plan d'affaires. Ouais, c'est pas pire. Puis là, je m'en vais voir, il dit, va voir la banque. Moi, je pars, je vais en voir la banque, j'explique mon projet. La banque dit, ouais, ça a bien du bon sens ton plan d'affaires, mais tu n'as pas une scène. Je pourrais te prêter si tu te trouves un garant. Autrement dit, si je ne paye pas les remboursements que je dois faire à la banque, il y a quelqu'un qui s'engage à les payer à ma place. C'est ça un garant. Christ a fait ça pour nous. Notre dette, c'est lui qui l'a payée. Il est devenu le garant pour nous. Alors, il est celui par lequel nous sommes certains que nous pouvons rencontrer de façon absolue les exigences de Dieu. Pour deux raisons, parce qu'il a pleinement payé la dette que nous devions. Quelle était la dette qu'on devait à Dieu le Père? Le péché originel, qui est la source de tous les péchés qu'on appelle actuels. Un péché actuel, c'est un péché qui s'actualise dans le temps et dans l'espace. Quand on vit au monde, on est pécheur. Et dès que quelqu'un est bébé, tu vois qu'il a la nature pécheresse parce qu'elle s'exprime, elle s'actualise. Mais on en prend conscience plutôt quand on arrive dans la jeunesse, 8, 10 ans, et plus vieux. Plus on vieillit, plus on se rend compte. Vous souvenez-vous du passage quand on a voulu lapider? Qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur a dit que celui qui est sans péché, il garoche la première pierre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a jeté la pierre à terre les premiers? Les vieux. Pourquoi les vieux? Parce que quand on est vieux, on sait qu'on est des pécheurs, puis on sait qu'on a fait des gaffes dans nos vies. Fait qu'on n'est pas les premiers à vouloir garocher la roche. Alors, on a la dette envers Dieu, on a la source de notre péché. Autrement dit, aux yeux de Dieu, on est coupable parce que le péché originel, on l'a hérité, mais on était responsable de l'avoir hérité, comme on a vu en bas, Romains 5, 12. On était en Adam, et on aurait fait le même choix que lui. Donc, à quelque part, cette dette-là, parce que c'est elle qui est la source de toute l'actualisation du péché, et aussi nos péchés actuels, à partir du début de notre vie, amenés jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas que le péché s'actualise dans nos vies? Malheureusement. Moi, dans mon cas, j'aimerais qu'elle s'actualise beaucoup moins. Et normalement, le cours d'une vie chrétienne devrait être qu'elle s'actualise moins profondément et moins fréquemment au début. Mais on se débarrassera jamais de notre vieille nature, elle va rester là. Le salut, autrement dit, actuellement, on a reçu le salut, mais qu'en partie. On va recevoir la finalité du salut lorsque le corps va se séparer de l'esprit et un jour, on va récupérer notre corps. Et là, le salut va être complet parce que là, on n'aura plus la source du péché en nous. Et là, le salut va être complet. Et aussi, le deuxième point, dans notre dette face à Dieu, Dieu exigeait que nous ayons accompli à la perfection la loi morale, le décalogue, les 10 paroles, appelez-les comme vous voulez. Il voulait qu'on l'ait accompli à la perfection sur chacun des commandements et qu'on l'ait fait durant toute notre vie sans avoir manqué une seule fois. Est-ce qu'il y a un être humain qui rencontre ça? Aucun être humain. Je peux le dire là, sans avoir peur de blesser qui que ce soit. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui a jamais accompli à la perfection les commandements de Dieu parce qu'on a tous péché. Alors, on a l'autre dette qu'on a envers lui, c'est que il nous demandait cette obéissance parfaite-là et nous ne l'avons jamais rencontrée. Alors, il fallait, pour être sauvé, que quelqu'un, par substitution, accomplisse la punition qui était reliée à la loi et accomplisse à notre place aussi les préceptes, donc les commandements, les exigences que Dieu avait envers chacun de nous. Là, on va regarder le médiateur qui révèle la grâce de Dieu. On a parlé tout à l'heure du premier point, la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu nous est révélée, supposons que vous êtes dans un état de pécheur, vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Quand le Seigneur vient vous faire la grâce de vous donner son esprit, pour que vous soyez capable de comprendre qu'est-ce que Christ a fait pour vous, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, des choses spéciales, il s'en passe plusieurs. Alors, lorsque la grâce de Dieu nous est révélée, l'homme pécheur apprend simultanément plusieurs choses. Quand je dis simultanément, c'est que ça peut prendre un peu plus de temps pour apprendre certaines autres choses, mais toutes ces choses-là, Dieu finit par nous les montrer de façon très claire. La première que Dieu nous montre lorsqu'il nous régénère par l'Esprit de Dieu, c'est qu'on est des impies. Jude 14 à 16. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voyez-vous, juste dans le texte, là, on dit à plusieurs reprises, à tous les impies, des actes d'impiété, des pécheurs. Alors, quand on n'est pas régénéré, Dieu dit qu'on va rendre compte pour toutes les paroles qu'on a dit, qui sont contre sa volonté, tous les actes qu'on a faits, on parle d'actes d'impiété. Quand Christ nous régénère, on est capable de reconnaître qu'on est des impies face à Dieu. Deuxième chose, il nous montre qu'on est impuissant spirituellement. Et là, je dois vous dire que ce n'est pas tous les chrétiens qui voient les choses de cette façon-là. Si on est un Arminien, on dit qu'on a choisi Dieu. Si on est calviniste, on dit que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est toute la différence du monde. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains 7, versets 14 à 24, ça c'est un passage qui est très disputé dans les Écritures. Dépendamment que c'est un calviniste ou un arminien, tu vas l'interpréter de façon différente. Mais moi, je trouve que le texte est très clair. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Qui parle, là? Paul. Paul, il dit, je suis charnel, vendu au péché. Après ça, il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous, la différence entre un païen et un chrétien, ce n'est pas que le chrétien ne se rend plus compte qu'il a la vieille nature en lui puis qu'il a encore le goût de pécher. C'est qu'il reconnaît que la loi de Dieu est bonne. Si j'ai le goût de pécher, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit et me dit, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et je reconnais, oui, c'est vrai, Dieu. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Je le reconnais que je suis dans les patates en voulant faire des choses qui sont contre ta volonté. Tandis que le païen, lui, il a sa vieille nature, mais il n'a pas la nouvelle nature pour l'aider à combattre sa vieille. Alors lui, tout ce que sa vieille nature lui propose, il se laisse aller. C'est normal, il n'y a rien pour lutter avec. Il n'y a pas de pouvoir, comme ça dit dans le texte. Quand je trouve en moi cette loi que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et c'est dans le verset suivant qu'il donne la solution. C'est comme un moment donné, il dit, c'est comme si il comprenait pas son propre comportement. Je suis sauvé, j'ai encore le goût de péché. Comment ça se fait, ça? Qui va me délivrer de ce corps de mort qui a toujours envie de pécher? Et là, dans le verset suivant, il reconnaît que c'est Christ. Christ, à cause de son Saint-Esprit, qui donne un outil, qui donne un moyen pour être capable de combattre ta nature pécheuse. Autre chose que lorsque tu reçois la grâce de Dieu, que tu reconnais, il faut que tu le reconnaisses parce que les Écritures le disent, que tu es un ennemi de Dieu. Très peu de personnes, avant d'être sauvées, tu vas leur parler, tu vas lui dire, est-ce que tu es un... Non, non, moi, je n'haïs pas Dieu. Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Romains 8, versets 6 à 9, « Et l'affection de la chair, c'est la mort. » La chair, c'est la personne qui n'est pas régénérée. Son affection, ce qu'elle aime, c'est la mort. C'est ça que la Bible dit. « Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est... inimitié contre Dieu. » Une personne irrégénérée est un ennemi déclaré, juré de Dieu. Qu'il l'avoue ou qu'il ne l'avoue pas, la Bible dit qu'il l'est. C'est un ennemi de Dieu. Parce que, regardez bien le texte, il est très clair. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Imaginez-vous les catholiques, quand ils enseignaient les œuvres qu'ils appelaient surérogatoires, ils disaient qu'une personne qui était sainte à leur définition, non seulement dans sa vie pouvait faire tellement de bons gestes qu'il les réconciliait avec Dieu, mais qu'il pouvait en avoir une banque, en banque, qu'il pouvait donner aux autres. Regardez ici, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne soumet pas la loi de Dieu. Puis même s'il voudrait se soumettre à la loi de Dieu, supposons une personne était régénérée, puis elle dirait, moi je veux obéir au décalogue, au commandement. Prenez la vie de Luther, vous allez avoir l'illustration parfaite de ça. Quand il était moine, il voulait obéir à la loi de Dieu, il savait que Dieu, il savait qu'il était condamné, il savait qu'il y avait un problème avec le péché. Sa manière à lui de le régler, c'était de prendre des fouettes. Il faisait ça tellement là, que des nuits, il tombait littéralement, le dos lui saignait, il se blessait volontairement, ou des cilices qu'il appelait des ceintures, qui avaient des braquettes à l'intérieur, puis il se mettait ça, puis les pieds, il se mettait des choses dans les pieds pour se faire souffrir, parce qu'il croyait que en se mortifiant le corps, volontairement eux-mêmes, qu'ils se débarrasseraient de leur volonté de pécher. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait exactement le contraire. Plus tu vas te battre contre ta chair, avec la chair, plus tu vas avoir le goût de péché. Et c'est ça qui n'en revenait pas. Il se faisait, je ne sais pas combien d'années, qu'il était chez les Augustins, et il se mortifiait sans bon sens. Il lisait les Écritures, il priait des nuits en prière. C'était épouvantable. C'était vraiment le salut par les œuvres. Il pensait que c'était eux qui pouvaient se réconcilier avec Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui fasse voir sa bêtise. Et ça l'a amené le début de la réforme, lui, Calvin et d'autres. Verset 8, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Vous, c'est clair. Hein? Ceux qui vivent selon la chair, des personnes irrégénérées, tu ne peux pas plaire à Dieu, même si tu veux. Pas compliqué. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et là, il dit bien la condition. Tu vas vouloir vivre selon l'Esprit si l'Esprit de Dieu habite en toi, si tu es régénéré. Sinon, oublie ça. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, la personne qui reçoit la grâce de Dieu reconnaît qu'il est un ennemi de Dieu. Il reconnaît aussi qu'il est condamné. Jean 1, verset 9 à 11, « Cette lumière, on parle de Christ dans le contexte, cette lumière étant la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Et la dernière partie est d'une importance. Ça, c'est un verset extrêmement important à comprendre. 13. Là, il parle des enfants de Dieu et il parle de leur naissance. Il dit « Lesquels sont nés non du sang. » Autrement dit, ça veut dire que même si ton père sera pasteur, ton arrière-grand-père sera pasteur et ton arrière-arrière-arrière-grand-père de 10 générations en avant, toi, tu viens au monde, tu es le fils d'un pasteur, ça ne garantit pas que Dieu va te faire la grâce. Autrement dit, le sang, c'est dans ce sens-là. Dans le sens que ce n'est pas la généalogie de ton père était chrétien, ça n'implique pas que tu vas nécessairement avoir un enfant qui va devenir chrétien. Après ça, il dit, ni de la volonté de la chair. La chair, c'est quoi? C'est l'homme irrégénéré. Ce n'est pas lui qui décide qu'il veut se réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas lui qui dit à Dieu, « Ok, ta grâce que tu m'offres, je la prends. » C'est Dieu qui lui donne. Après ça, ça dit, ni de la volonté de l'homme, c'est pas même si moi je voudrais que mon fils soit sauvé ou que ma fille soit sauvée. Ça, c'est la volonté de l'homme. Moi, je voudrais, là, ma volonté, je la mettrais toute dans ce sens-là si Dieu me permettait de le faire. Dieu dit, c'est pas ça, ça marche pas de même. C'est pas la volonté de l'individu, puis c'est pas la volonté d'un autre à l'extérieur. Mais ça dit bien, la dernière partie est vraiment très importante, lesquels sont nés, et si vous enlevez ce que je viens de dire, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, sont nés, mais de Dieu. Autrement dit, sont nés de Dieu. Sont nés par l'Esprit, sont nés par la régénération du Seigneur. Alors, la personne, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle était condamnée, que si elle mourait dans cet état-là, ça en allait en enfer pour l'éternité. Jean 15, verset 25, « Si je n'étais pas venu, c'est Christ qui parle, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Et si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. » Ils m'ont haï sans cause. Qui est condamné, mais qui est aussi jugé. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Autre chose qui lui est dit, qu'il comprend lorsqu'il reçoit la grâce de Dieu, c'est qu'il le fait, qu'il doit se repentir, qui est un aspect, et aussi l'autre aspect, avoir la foi. Acte 20, verset 21. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour l'homme, se repentir, c'est acquiescer la sentence sous laquelle il se trouve et de se détourner de ses voies impies et de se tourner vers l'obéissance à Dieu. Se repentir, ça veut dire, oui, je reconnais la sentence qui est sur moi, et la seule façon de m'en sortir, c'est de me tourner vers le Seigneur, et ça, la repentance et la foi, c'est une grâce qui sont indissociablement liées ensemble. Quand tu reçois l'un, tu reçois l'autre. Et la foi, c'est la réception et l'acceptation que le salut ne s'obtient que par la grâce et qu'elle est donnée par Dieu. Le problème avec les Arméniens, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a une grâce, mais ils ne reconnaissent pas qu'elle est donnée par Dieu. Ils disent que c'est leur décision qui a fait en sorte qu'ils ont pu bénéficier de la grâce. Cette foi et cette miséricorde lui sont présentées à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ devient à la fois le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Ça ici, là, je dirais, s'il y a une chose importante dans la vie chrétienne, c'est de comprendre ça. Quand on dit qu'on a la foi, on a la foi en qui? Au Seigneur. Le mot Seigneur est avant le Sauveur. Jésus, ça veut dire Sauveur. Christ, oint. Alors, voyez-vous, l'ordre même des mots nous démontre qu'on ne peut pas croire en Jésus, mais croire uniquement au fait qu'il est Sauveur. Bien sûr, tout le monde veut que ses péchés ne lui soient pas attribués par le Seigneur lorsqu'il va les juger. Bien sûr, personne ne veut aller en enfer pour l'éternité. Mais est-ce que tu es prêt? La repentance, ça veut dire reconnaître que ta règle de vie, c'est tout dans ce livre-là, et que c'est pas simplement la lire, c'est pas simplement la comprendre, parce que tu pourrais la lire et la comprendre et pas te repentir du tout. C'est la lire, la comprendre et obéir. C'est ça la repentance. Alors, si quelqu'un croit qu'il peut être... Parce que ça, aujourd'hui, je dirais, dans la chrétienté moderne, il y a beaucoup de gens qui croient, à cause qu'ils sont allés dans une conférence quelque part, ils ont entendu Billy Graham ou qui que ce soit. Ils ont descendu, comme ils disent en anglais, « get down the aisle », ils descendent en bas, et là, ils reçoivent des petits papiers, et là, ils retournent dans leur église respective, l'église catholique y compris. Et là, sauvé, et là, ils mènent une vie comme ils veulent. N'importe comment. Ils ne tiennent pas compte de ce que Dieu dit, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ils disent, j'ai été sauvé telle date, j'ai descendu à... Ça marche pas de même. Le Seigneur, il parle de la repentance et de la foi. Deux choses qui vont ensemble. Et s'il n'y a pas de repentance, c'est pourquoi quand on parle de la nouvelle série qu'on veut partir sur la mortification. C'est parce que la mortification, c'est un outil que le Seigneur nous a dit comment faire pour faire mourir nos péchés. Mais il nous dit comment s'y prendre, parce que si on ne s'y prend pas de la bonne manière, on ne réussira pas. Et c'est ça que John Owen amène dans sa façon, c'est qu'il faut que tu fasses mourir le péché dans ta vie, mais il faut que tu t'y prennes de la bonne façon, parce que si tu ne le prends pas de la bonne façon, les péchés que tu veux faire mourir ne mourront pas. C'est plus compliqué que ça. Et autre chose que l'enseignement biblique finit par te faire comprendre que tu as reçu la grâce de Dieu, c'est quand tu comprends que les exigences de la loi morale, du décalogue, des 10 commandements, il y a deux aspects à la loi. Il y a l'aspect punitif, que si tu n'as pas obéi parfaitement en pensée, en parole, en action, en omission, et même en faute secrète que tu ne connais même pas, si tu n'as pas obéi à la perfection, à la loi, Dieu doit te juger pour chaque péché que tu as commis, du premier jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort. Et il nous dit dans les Écritures que la punition pour l'ensemble de ces péchés-là, c'est l'enfer. Il va y avoir des degrés différents d'enfer dans la vie des gens, parce qu'on n'a pas tous péché au même degré, avec la même gravité, mais c'est quand même tout l'enfer. Il va y avoir des degrés plus profonds pour certains. Donc ça, c'était une dette. Et aussi les préceptes de la loi. Donc il y a l'aspect punitif de la loi et il y a l'aspect précepte de la loi. Dieu dit que celui qui vivra par ses choses, il faut qu'il lui obéisse. On le sait, personne qui obéit jamais à ça. Alors, quelqu'un, quand il reçoit la grâce de Dieu, finit par comprendre que c'est par substitution que ces deux exigences-là de Dieu sont rencontrées. Si je mourais sans avoir reçu la grâce de Dieu, Dieu m'envoyait en enfer pour l'éternité. Imaginez-vous la quantité de souffrance là-dedans, inimaginable. Et en plus, il me dit que tu ne peux pas vivre en ma présence si tu n'as pas accompli à la perfection le décalogue, la loi morale, les 10 commandements, les 10 paroles. Appelez-le comme vous voulez. Est-ce qu'il y a un homme? Aucun homme n'a jamais rencontré ça. Alors, quand on reçoit la grâce de Dieu, on est capable de reconnaître, non pas comme les catholiques croient qu'on peut accumuler suffisamment de bonnes actions pour qu'on puisse en avoir au-delà de ce qu'on a besoin aux yeux de Dieu, puis pouvoir en donner aux autres. Nous, on reconnaît que notre punition n'aurait jamais été capable de la porter. Ça aurait pris l'éternité. Une éternité, si Dieu... Parce qu'au bout de l'éternité, ça ne finit pas une éternité. Ça veut dire que tes péchés, il aurait fallu que tu payes longtemps, mais pas longtemps à peu près. Et il exigeait aussi, pour vivre en sa présence, que tu aies accompli la loi de la perfection. Mais quand on comprend que c'est Christ qui a fait la chose, les deux choses qui sont exigées par la loi, que Dieu a fait subir à Christ la punition qui m'était due, qui vous était due, et que Christ a accepté de obéir au décalogue, à la loi morale, aux 10 commandements, à la perfection à votre place, là, on comprend que croire en Jésus, c'est de croire ce qu'il a fait pour toi. Et s'il nous était donné vraiment de comprendre à la perfection ces choses-là, on serait absolument ébahi, renversé, on serait dans l'admiration. Et l'éternité, c'est ça que ça va être d'après moi. Dieu va nous faire comprendre de plus en plus ce que Christ a fait pour nous et on va être très, 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 très touché par ces choses-là. Regardez, on va aller regarder le passage. Tout à l'heure, je vous disais que le passage qu'on était en train de lire, il y avait une référence dans le Nouveau Testament. Si vous allez dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 18, vous allez voir que Paul fait une allusion à ce passage-là. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, le ministère de la mort, de quoi il parle? Il parle du décalogue, il parle des tables de la loi. A été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Voyez-vous, Moïse était monté sur la montagne, il avait parlé avec Dieu, et Dieu est lumière. S'il était dans la présence de Dieu pendant 40 jours, c'est sûr que la quantité de lumière qu'il avait reçue, à la fois physique et à la fois spirituelle, était énorme. Et quand il descendait, la gloire, le passage nous dit que la gloire était passagère, mais quand même que cette gloire-là était suffisamment forte pour que les Juifs de l'époque n'étaient même pas capables de regarder la face de Moïse. Ils ne regardaient pas Dieu, là. Ils regardaient le reflet de la lumière de Dieu que Moïse lui-même avait accueilli. Voyez-vous ce que ça dit? Les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Là, il parle de nous autres. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la condamnation, c'était quoi? Le décalogue qui nous condamnait. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Il parle de ce que Christ a accompli pour nous. Verset 10, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, voyez-vous, il sert du voile que Moïse se mettait sur la tête pour cacher la gloire qu'il avait reçue de Dieu. Et il dit qu'à cause ils sont devenus durs d'entendement. Il dit, verset 14, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas quand c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est sur leur cœur. Verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Les Juifs, là, maintenant qu'ils lisent l'Ancien Testament, quand ils reçoivent la grâce de Dieu, oups, ils reconnaissent Christ, qu'il est venu, et non pas le Messie à venir, ils reconnaissent qu'il est venu, et ces choses-là. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et là, je vais reprendre les deux aspects. Vous allez dire, Marcel, il répète souvent ça. Mais c'est pas grave, je vais vous le répéter tant que je vais être ici. Puis quand vous serez plus capable, me direz. On retournerait à Québec. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21. Car nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quand je prêchais dans la rue, je commençais toujours comme ça. Nous vous en supplions au nom de Christ. Qu'est-ce que les Écritures nous disent de faire avec les inconvertis? Faut que tu les supplies. Nous en supplions de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Puis verset 21, il explique l'Évangile. Un verset qui explique l'Évangile. C'est-tu beau, ça? Celui qui n'a point connu le péché, c'est Christ. Il l'a fait devenir péché pour nous, qui, le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin, dans le but de, que nous soyons, que nous devenions en lui justice de Dieu. Ici, il faut faire attention avec le mot justice. Parce que pour nous, la justice, c'est quelqu'un qui se fait prendre, qui se fait emmener dans un, par les policiers, puis qui passe en justice. Dans les Écritures, la justice, c'est l'obéissance à Dieu. Autrement dit, quand on dit « afin que nous devenions en lui », nous devenions en Jésus-Christ, justice de Dieu, parfaite obéissance au décalogue. C'est ça que ça veut dire. Quand on comprend ça comme ça, là on vient de comprendre les deux aspects, non seulement Christ a pris notre punition, mais a accompli la loi à la perfection à notre place. Galates 3, versets 11 à 16, la question de la punition, pour moi, clairement, c'est l'Écriture qui le dit. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Autrement dit, il nous dit que c'est impossible qu'aucun homme ne soit sauvé par la parfaite obéissance à la loi durant sa vie. Qu'il oublie ça, c'est impossible. Verset 12, or la loi ne procède pas de la foi, mais il dit, regardez bien ce qu'elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous étions en Christ, quand Christ était, la malédiction du Seigneur étant du Père, de Dieu le Père est tombée sur lui, elle tombait sur nous également. C'était nos péchés qui étaient jugés en la personne de Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ici, là, c'est d'une importance capitale à saisir ça, parce que le Seigneur est en train de dire l'importance d'un seul mot dans les Écritures pour la compréhension et bien l'interpréter. Les promesses ont été faites à Abraham et à qui? Sa postérité. Là, si les Écritures ne nous donnaient pas l'interprétation, on dirait qui la postérité d'Abraham? On dirait c'est les Juifs. Ici, les Écritures nous disent c'était qui la postérité d'Abraham. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Le Nouveau Testament vient interpréter l'Ancien. Il faut vraiment faire l'inverse. Le Nouveau interprète l'Ancien, tout le temps. Quand on fait ça, on ne se trompe pas, parce que les Écritures nous disent que la postérité, les promesses qui avaient été faites à Abraham et à sa postérité, les Écritures dans le Nouveau Testament nous disent que sa postérité, c'était la personne de Christ. Alors, en Christ, tout ce qui avait été promis à Abraham se réalise. Deuxième point qu'on va regarder, le médiateur reflète la gloire de Dieu. Quand Christ est venu sur la terre, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il n'a fait que ça, manifester la gloire de Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, ça c'est dans Jean 17, prière sacerdotale, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. C'est Christ lui-même qui parle à son Père et dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ça veut dire que le Père n'avait pas donné tous les hommes au Seigneur. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Peut-être plus clair. Il ne prie pas pour le monde, donc il ne prie pas pour l'humanité au complet. Il prie pour ceux que le Père lui a donnés de toute éternité. Comment on ne peut pas comprendre ça? Moi, j'ai de la misère à comprendre que quelqu'un ne comprend pas. Car c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et j'en suis glorifié en eux. Donc aussi, autre chose que le texte nous enseigne un petit peu par la bande, c'est que toute véritable communion avec Dieu apportera chez le croyant des effets. Ce qu'on voit dans le texte, c'est que Moïse était monté sur la montagne, il avait parlé avec Dieu pendant 40 jours, et la lumière finissait par paraître, transparaître dans son visage. Alors, qu'est-ce que le texte nous enseigne si on veut le mettre en pratique de nos jours? La communion avec Dieu, qui est lumière, va finir par transparaître dans nos propres visages, la Bible dit. La ressemblance à Christ. Et le Seigneur nous dit que normalement, un chrétien devrait de plus en plus ressembler à Christ. Moi, quand je lis ça, la ressemblance à Christ, là, je me dis, même si quelqu'un connaît bien le Nouveau Testament et qu'on connaît la vie de Christ et qu'on veut lui ressembler, je veux dire, la barre est haute, on a de l'ouvrage, pas à peu près. Mais ce n'est pas nous autres qui a fait l'ouvrage, c'est l'Esprit. Psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Et Romains 8, verset 28 à 30 est très important. Parce que le Seigneur nous dit qu'un des buts pour lesquels le Seigneur est venu, c'est pour nous emmener à la ressemblance de son Fils. Pour moi qui invente cette idée-là, là. Romains 8, verset 28 à 30, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si on est un enfant de Dieu, quoi que ce soit qui arrive dans nos vies, même si nous c'est douloureux, c'est plate, c'est incompréhensible, la Bible nous dit que c'est pour notre bien, que ça nous prend du temps à intégrer ce verset-là. Ah, ce que ça nous prend du temps, c'est incroyable. On est, comme le Seigneur disait, vous êtes lent. Je suis lent. Et fort probablement que vous êtes lent aussi. Parce que les versets sont clairs, mais on les comprend pas. On comprend. Dès qu'il nous arrive quelque chose, ben voyons, le Seigneur, il a dû m'oublier, là, et il m'a envoyé telle affaire. Non, il ne t'a pas oublié, c'est pour ton bien. Mais comment quelqu'un qui comprend vraiment ce verset-là, il ne se plaint plus jamais de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ça nous dit, toute chose, c'est le texte dans l'original, c'est toute chose travaille ensemble. Tout ce qu'il nous envoie, toutes les circonstances, c'est comme un tricot que le Seigneur fait. Ça contribue tous les événements, sans exception, à nous faire ressembler davantage à Christ. Et verset 29, quel passage à étudier ça? 28 à 30, là, pour être l'ouvrage d'une vie. Car ceux qu'il a connus d'avance, qui? Les élus en Christ de toute éternité, il les a, et regardez, c'est les Écritures qui parlent, c'est l'Esprit qui parle. Il les a qui? Les élus. Il les a prédestinés. Donc, le but pour lequel Christ est venu, c'est être semblable à l'image de son Fils. Je me souviens d'un pasteur que j'ai connu, un texte à l'école biblique. Il était rendu sur la fin de sa carrière et il dit, je viens de comprendre c'est quoi ça veut dire, Christ-likeness, qui veut dire ressemblance à Jésus-Christ. Puis il dit, là, il dit, je suis comme un bébé, il dit, j'arrête pas de prêcher sur le Christ-likeness, c'est à chaque fois qu'il m'a donné une occasion de prêcher. Je viens de comprendre véritablement c'est quoi ça veut dire, Christ-likeness, la ressemblance à Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit dans les Écritures qu'il nous a sauvés dans le but que, éventuellement, avec la progression de notre sanctification, on ressemble de plus en plus à la personne de Jésus-Christ, afin que son Fils fut le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés les a appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Le golden chain, qu'il appelle en anglais, la fameuse cinq choses. Quand tu comprends ce verset-là, là, tu as compris l'Évangile comme ça. Mais il faut que tu comprennes. Autre chose que les Écritures nous amènent, si on a une véritable communion avec Dieu, qu'est-ce que ça va nous apporter? Des effets. Ça va nous apporter l'abnégation de soi et l'humilité. 2 Pierre 5, versets 5 à 7, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Matthieu 16, versets 24 à 26, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est drôle pareil, parce que ce matin, j'ai lu un texte qui parlait de ce fameux renoncement à soi-même. Ça veut dire, selon l'auteur que je viens de lire, je crois qu'il a raison, ça veut dire c'est renoncer à toute autonomie. N'est-ce pas que l'être humain, il cherche son autonomie? Pourquoi il veut être riche? Parce qu'il veut être indépendant. Il ne veut pas être dépendant. La Bible, nous, elle nous demande comme chrétiens de renoncer à toute forme d'autonomie, de diriger sa vie, de conduire. Tu renonces à toi-même. Tu dis, je ne veux pas d'autonomie parce que je sais que je ne suis pas capable de la gérer comme il faut. Mais toi, tu es capable. Alors, je te la donne au complet, ma vie. Fais-en ce que tu veux. C'est que tu renonces à ton autonomie. Puis Christ, il dit, si tu penses que tu as perdu ta vie en faisant ça, tu te trompes. Parce que tu la gagnes. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Autrement dit, qu'il veut garder son autonomie. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Autrement dit, quand tu renonces à ton autonomie, tu es en train de dire à Dieu que tu lui donnes tous les pouvoirs de faire ce que tu veux de ta vie. Ça aussi, c'est long à comprendre. Très long. Aussi, la Bible nous dit que si on a une communion avec Dieu et qu'elle est constante, ça va produire aussi une impression sur les autres. Verset 30 dans le texte. Araon et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Si on a une communion régulière, constante, une adoration avec Dieu qui est vraiment, là, on entre dans l'intimité avec Dieu de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, de plus en plus intensément. Ça va transparaître dans nos vies, au point que les autres vont voir en nous quelque chose de divin. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Normalement, si on passe une grosse vie d'adoration, les autres vont reconnaître en nous, un peu comme les gens voyaient de la lumière dans le visage de Moïse, si on est beaucoup en communion avec Dieu, les autres vont voir qu'on était avec Dieu. Et ça va procurer aussi de l'assurance chez les croyants. 2 Pierre, verset 1, 3 à 10. C'est valable qu'on n'ait pas le temps de rentrer là-dedans matin. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans ce monde. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui sont ces choses ne sont point ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Passons au troisième point, la question du médiateur, on va aller rapidement. Se porter garant pour quelqu'un, c'est accepter de s'engager à répondre à la place d'un autre pour quelque chose. C'est une personne qui répond de la dette d'un autre. Notre dette envers la loi morale de Dieu était double. Nous devions payer la punition qui était rattachée à la moindre désobéissance, qui se concrétise dans les souffrances, dans l'enfer pour l'éternité, si on ne reçoit pas la grâce. Et nous devions également obéir parfaitement à tous ses préceptes, dont ses exigences. Obéissance parfaite pour chacun de ses commandements et pendant toute notre vie. Le garant, c'est le Christ qui a accepté volontairement de subir notre châtiment à notre place et a accepté d'obéir parfaitement et sans manquement aucun à tous les préceptes de la loi morale, en pensée, en parole, en action, avoir jamais eu aucune omission ni aucun péché secret. Il est notre garant. Ça a été fait à notre place. Christ est le garant de notre punition. La terrible punition qui aurait dû être la nôtre a été subie par Christ à la place de ses élus. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Et on a lu tout à l'heure le passage dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Romains 3, versets 18 à 24, « La crainte de Dieu n'est pas devant leur Dieu. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption. » Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Je dirais au moins de comprendre qu'il y a un lien qui est indissoluble entre la loi et la grâce. Il ne peut pas y avoir de grâce si la personne ne comprend pas les exigences de la loi envers lui avant. C'est vraiment indissoluble. Même Fred Malone en a fait sa tasse de thé. Lui, pour lui, il a voulu vraiment approfondir. L'autre jour, je vous partageais en bas que le pasteur, quand il est voulu devenir assistant pasteur avec une autre personne, la personne dit, « Si tu ne comprends pas Romains 6, 14, tant que tu seras pas mon assistant. » Mais c'est important de comprendre les liens qu'il y a entre la loi et la grâce. La loi manifeste les exigences de Dieu, punition quant à ses manquements, exigence quant à ses préceptes, et la grâce nous donne de rencontrer à la fois les deux, par la foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ, et ceci de façon substitutive. Quand on comprend les exigences de la loi, on comprend que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il accomplisse les deux aspects de la loi qui étaient absolument à rencontrer, on fait un grand pas dans la vie chrétienne. Deuxième chose, je dirais, étudions et méditons sur la personne de Jésus-Christ parce qu'il a manifesté la gloire de Dieu, donc l'ensemble des attributs divins. Plus on va étudier la vie de Christ, plus on va comprendre jusqu'à quel point il a manifesté la gloire de Dieu. Et plus on va comprendre qui Dieu est, parce que quand il avait dit à Philippe, je pense, il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alors, si tu regardes le Christ, tu vois le Père. Et troisième application, rendons grâce pour la solidité infinie de notre garant. Le Seigneur, c'est notre assurance. Il a à la fois accompli le côté punitif de la loi, il l'a à la fois accompli. Donc, notre garant, c'est d'une solidité, c'est fait une fois pour toutes. Les Écritures nous le disent, le Seigneur, ce qu'il a accompli, c'est parfait. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni, loué et exalté éternellement. Amen. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci à partir de ce texte que tu nous as encore... On s'est servi du texte comme tremplin, Seigneur, pour connaître les différents aspects de notre médiateur Jésus-Christ. Puisses-tu faire nous donner la grâce, Seigneur, de comprendre de plus en plus, de mieux en mieux, les implications de ces choses de manière à ce que nous apprécions davantage la grâce qui nous a été donnée. Et, Seigneur, que nous cherchions à te connaître de mieux en mieux, car tu es notre roi, notre Père. Et aussi, Seigneur, le fait qu'on reconnaisse que tout ce qui nous arrive dans la vie est pour notre bien. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre Seigneur et aussi notre Sauveur. Nous te demandons ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.